Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous. Soyez les bienvenus dans Apolline Matin. Je vous retrouve évidemment et on est ensemble jusqu'à 9h. Face à cette guerre, ma responsabilité est d'agir. Vous avez peut-être écouté le président de la République hier soir. Dès hier matin, le ministre des Affaires étrangères le reconnaissait d'ailleurs à mon micro sur RMC. Nos rafales sont déjà intervenues ce week-end pour abattre des drones. Le porte-avions, le Charles de Gaulle, fait route vers la Méditerranée. Nous allons protéger activement nos alliés dans la région. Le détroit d'Ormuz et plus près de nous, Chypre. Alors on va tirer le fil ce matin dans Apolline Matin, à la fois sur le plan militaire mais aussi sur le plan économique. Militaire d'abord, à 7h40, le colonel Père de Jong est mon invité. La France est-elle entraînée dans la guerre et en avons-nous les moyens, de peser? Et puis à 8h30 dans le face-à-face ce matin, mon invité c'est la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Rapatriement de nos ressortissants, un premier vol de personnes vulnérables est arrivé cette nuit à Paris en provenance du Moyen-Orient. Et puis Maud Bréjon, c'est aussi la ministre de l'énergie. Prix du pétrole, prix du gaz, prix à la pompe, retour de l'inflation, quelles conséquences sur le commerce mondial et sur notre pouvoir d'achat? Réponse donc à 8h30 sur RMC. Et puis on vous attend toujours vos témoignages. Avez-vous mis vos enfants dans le privé ou dans le public? Il y aura bientôt autant d'enfants dans le privé que dans le public à Paris. Et est-ce que le privé a gagné le match? J'attends vos témoignages et vos réactions. Dans un instant, le journal de 7h. Il est 7h sur RMC. Très bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le soulagement ce matin pour une centaine de Français rapatriés du Moyen-Orient arrivés cette nuit à Paris. Un deuxième vol doit suivre dans la journée. C'est l'une des annonces d'Emmanuel Macron dans son allocution télévisée avec le déploiement de forces militaires supplémentaires dans la région. Un cinquième jour de guerre qui a débuté par des frappes israéliennes menées tôt ce matin sur l'Iran et le Liban. Plusieurs personnes ont été tuées. Nous irons à Beyrouth dans ce journal. Et les tensions exacerbées à l'approche des municipales entre insoumis et les socialistes qui accusent sans réserve Jean-Luc Mélenchon d'antisémitisme.
Les premières évacuations de Français au Moyen-Orient.
C'est l'annonce d'Emmanuel Macron hier soir dans son allocution. Un premier vol en provenance d'Oman, affrété par Air France, a atterri peu avant 3h ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. À son bord, une centaine de ressortissants français dits vulnérables, soulagés de retrouver la France après 4 jours d'angoisse. Amélie Lafchin était sur place pour RMC.
Des larmes de joie, des étreintes, des embrassades et un mot qui revient sans cesse.
Enfin.
Ces retrouvailles, Victoire, 26 ans, étudiante à Dubaï, les a longtemps attendues.
On a fait un long périple, on a changé au moins 3 fois de car jusqu'à Oman. Ensuite, on a pris un avion, on a fait une escale au Caire et ensuite, on a fait Caire-Paris. Donc ça a été très très émouvant parce qu'on était tous stressés de savoir si on allait arriver à destination.
Mohamed pousse un lourd chariot chargé de valises, mais c'est le cœur léger qu'il rentre de Dubaï, où il était en vacances avec sa femme et ses enfants.
J'ai une envie, c'est de dormir. J'ai peut-être dormir une semaine. On a subi pas mal de bombardements. On se posait beaucoup de questions. On espère qu'on ne va pas garder ces traumatismes plus longtemps et reprendre le cours de notre vie le plus rapidement possible.
Parmi les passagers, des jeunes qui participaient à une colonie, des personnes fragiles, des familles avec enfants. Et si tous se réjouissent de retrouver la France, beaucoup espèrent vite retrouver leurs proches encore coincés là-bas.
Et un deuxième vol doit atterrir dans la journée en provenance toujours du Moyen-Orient. C'est ce que dit Emmanuel Macron qui annonce un renfort militaire sur place avec le déploiement d'ici une semaine du porte-avions Charles de Gaulle.
Face à cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates, fasse route vers la Méditerranée.
Et actuellement situé à Malmö en Suède, le porte-avions militaire va donc quitter le nord de l'Europe, se rapprocher du conflit avec d'autres moyens militaires. C'est ce que nous dit l'ancien chef d'état-major des armées de l'air, le général Jean-Paul Paloméros.
n'est pas tout seul. Il a ce qu'on appelle le groupe aéronaval, donc différents bâtiments, dont des frégates, lance-missiles, pour le protéger éventuellement contre des missiles balistiques, vraisemblablement un sous-marin. Plus on se fait respecter, et mieux ça vaut. Hein. C'est quand même démonstratif. Si nécessaire, des avions décolleront du porte-avions et frapperont là où on leur demandera de frapper, ou intercepteront des drones, intercepteront des avions, pour défendre d'abord, pour se protéger, et si nécessaire, pour attaquer si un jour le besoin s'en fait sentir.
Et la situation ce matin au cinquième jour de la guerre, ce sont ces frappes qui se poursuivent dans toute la région, des missiles et des drones iraniens interceptés en Arabie Saoudite, des explosions entendues tôt ce matin du côté de Jérusalem, des dizaines de frappes israéliennes menées en Iran sur des infrastructures militaires et religieuses, des frappes aussi au Liban. En direct de Beyrouth ce matin, Inès Zegloul, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC sur place, des attaques de l'État hébreu qui ont à cette heure fait au moins 11 morts dans le sud et l'est du Liban.
Et de la fumée qui s'échappe encore dans le ciel de Beyrouth ce matin. Une déflagration, là, il y a quelques instants que je viens d'entendre. Reste des frappes, cette fumée, cette nuit sur la capitale. De grosses déflagrations qu'on a entendues, donc, des kilomètres de distance. Nouvelle série d'attaques, d'abord vers 1h en périphérie sud de Beyrouth. Bilan provisoire, 6 morts et 8 blessés. Ensuite, aux alentours de 4h, c'est un hôtel qui a été visé par une frappe aérienne israélienne. Ce qui choque, c'est ce qu'on nous dit ce matin, c'est que cette frappe, elle a eu lieu en plein cœur du quartier résidentiel d'Azmiyeh, quartier plutôt à majorité chrétienne, à deux pas seulement du palais présidentiel. Pour l'heure, pas de bilan établi. Et puis bombardement meurtrier aussi à Baalbek, plus à l'est. 5 morts retrouvés pour l'heure sous les décombres d'un immeuble de 4 étages. En parallèle, l'incursion terrestre israélienne dans le sud du pays continue. Des troupes déployées au sol pour avancer sur le territoire libanais, se défendre, dit l'État hébreu, des attaques du Hezbollah à la frontière. Ce matin, les habitants d'une quinzaine de villages sont appelés à évacuer, à quitter leur maison et à fuir.
Inès Zegloul, envoyé spécial RMC à Beyrouth au Liban, une guerre qui fait mal au marché, les bourses asiatiques dévissent encore ce matin alors que le cours du pétrole continue sa flambée. À suivre ce matin la réaction des places européennes. Dans le reste de l'actualité ce matin, le fossé qui se creuse un peu plus entre les insoumis et les socialistes, ils ont lâché le mot hier soir, antisémite, pour qualifier Jean-Luc Mélenchon, une charge à moins de 2 semaines des élections municipales qui devrait raviver Romain Houg les tensions déjà bien présentes entre les deux camps.
Oui, c'est un communiqué du bureau national du PS tombé hier soir, dans lequel la plus haute instance du parti dénonce sans réserve, je cite, les caricatures complotistes et propos antisémites intolérables de Jean-Luc Mélenchon. Cela fait suite aux récentes polémiques autour de la manière qu'a eu le leader insoumis de prononcer les patronymes juifs Epstein et Glucksmann lors de récents meetings. Conséquences très concrètes pour les municipales, il n'y aura pas d'accord national et donc de rapprochement entre le PS et LFI au second tour. Une seule règle, celle du désistement républicain si le risque d'une victoire du Rassemblement national existe. Jean-Luc Mélenchon n'a pas tardé à répondre. Dans un tweet, il dénonce des intolérables accusations d'antisémitisme de la part du PS qui reprend les attaques de l'extrême droite et des surenchères anti-LFI qui promettent à la droite et au RN la victoire dans des dizaines de villes.
Ensuite, du procès de Christophe Hellul, jugé depuis hier à Soissons dans l'Aisne pour homicide involontaire. Son chien Curtis est accusé d'avoir mortellement mordu son ex-compagne Elisa Pilarski, retrouvée sans vie dans un bois en 2019 lors d'une sortie avec l'animal. Constance Bostoen, service police justice RMC. L'homme était interrogé hier et il a continué de clamer à la barre l'innocence de son chien, il en est convaincu.
Oui, pendant près de 8 heures à la barre hier, Christophe Hellul demande des preuves au tribunal. Si Curtis a tué Elisa et qu'il est coupable, piquez-le, tuez-le ou je le ferai moi-même, s'exclame-t-il quand la procureure lui demande plusieurs fois d'expliquer ce SMS qu'il a envoyé à Elisa juste avant sa mort. Elisa vous appelle pour vous dire qu'elle a été mordue, vous lui envoyez que vous allez le piquer. Qu'est-ce que cela signifie ? Christophe Hellul botte en touche avant de s'emporter. Vous croyez que je ne souffre pas, moi ? Lance-t-il les larmes aux yeux. Tout de noir vêtu, le crâne rasé, le prévenu a passé la journée à rappeler qu'une chasse à courre avait lieu au moment même où Elisa a trouvé la mort. Une ligne de défense qu'il maintient, même si l'instruction a mis ses chiens hors de cause et que l'ADN de la victime a été retrouvé sur les babines de Curtis.
Le foot et Strasbourg, premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après sa victoire face à Reims hier soir, 2-1, à suivre ce soir sur RMC. Marseille-Toulouse, avant ça, Lorient reçoit Nice. Demain, Lens se déplacera du côté de Lyon.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. L'école publique est en train de mourir. Voilà ce que dit cette représentante syndicale. Écoutez.
Une école à deux vitesses, une école des pauvres, une école des riches. La France des Lumières qui a construit l'école républicaine, laïque, gratuite, obligatoire, aujourd'hui, elle n'existe plus.
Alors les faits sont là, on l'a appris hier, un élève de 6e sur 2 sera scolarisé dans le privé en 2035. Est-ce que c'est école des pauvres, école des riches? Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous appeler au 32-16, dans un instant on sera avec Laetitia. Elle est au chômage et pourtant elle se saigne pour que ses enfants soient dans le privé. Cette question, qu'est-ce qui divise? Je vous la pose, Harold Cobert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, professeur de lettres dans le privé justement à Paris. Pour vous, l'école privée, elle est la seule à défendre la méritocratie. C'est votre parti pris dans un instant sur RMC et j'attends vos réactions. Vous nous appelez au 32-16. Est-ce que vos enfants sont dans le public ou dans le privé et pourquoi? Vos messages sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424 ou vos appels au 32-16. Il est 7h09, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. L'école privée est-elle en train de gagner le match contre l'école publique? On se pose la question ce matin après ce rapport de l'Institut des politiques publiques. Si rien ne change, en 2035 à Paris, un élève sur deux en 6e sera scolarisé dans le privé. Bonjour Harold Cobert.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous êtes professeur de lettres dans le privé justement à Paris. Votre parti pris ce matin, c'est que l'école privée est finalement aujourd'hui un lieu qui défend davantage la méritocratie que le public. Pourquoi?
En tous les cas, il est certain que le privé d'aujourd'hui semble être devenu le public d'hier. Parce qu'il y a 30 ou 40 ans, le public était bien supérieur en termes d'exigence que le privé. Mais c'est aussi sans doute parce qu'il y a une plus grande liberté pédagogique. Et que en ce qui me concerne, par exemple, en seconde, mon directeur me laisse faire ce qui n'est pas autorisé officiellement dans les textes, c'est pas
quoi,
vraiment précisé. C'est-à-dire que je sanctionne la grammaire, les fautes de grammaire et d'orthographe à partir du second trimestre.
Et normalement, c'est fini ça.
Ça n'est pas officiel, mais par exemple, vous avez Cécile Chabot qui expliquait il y a un mois que les professeurs ne pouvaient pas mettre les vraies notes, que l'un de ses collègues avait mis les vraies notes et qu'il avait été convoqué. Par exemple aussi, pendant le baccalauréat l'année dernière et pendant le brevet, il y a eu une circulaire qui était passée, dont certains syndicats s'étaient fait l'écho, qui expliquait que s'il y avait un embryon d'introduction, il fallait valoriser cet embryon, et que si les phrases étaient compréhensibles phonétiquement, il fallait valoriser cette compréhension phonétique.
Valoriser?
Oui.
Valoriser le fait que pourtant ce soit du
Que ce soit écrit en langage, SMS, TikTok et autres, il fallait quand même valoriser si quand on le lit à voix haute, on comprend.
Est-ce que pour vous, au fond, c'est la victoire du privé ou c'est surtout l'échec du public?
L'échec du public est sans doute lié à une série d'échecs successifs, concernant les réformes qui ont été faites et qui ont abaissé le niveau d'exigence des programmes. Et parce qu'on pense que la jeunesse est stupide et qu'elle ne sait plus rien faire, mais en fait, si le niveau de la jeunesse a baissé, c'est parce que le niveau d'exigence envers la jeunesse, elle a baissé. Suite à une idéologie qui veut que la rigueur ce soit fasciste, que l'autorité ce soit fasciste, et on confond rigueur et rigorisme, autorité et autoritarisme, c'est pas du tout la même chose. L'autorité est un cadeau
qu'on fait
aux enfants.
Pour vous, c'est idéologique, en fait. On a refusé d'assumer l'autorité.
Oui, je pense, ça vient de
tout. Ou l'exigence.
Je pense qu'on ne veut plus l'assumer parce qu'on est dans une espèce de surprotection. On en est quand même à un stade où on met plutôt des points rouges et des points verts, un peu comme les feux de signalisation dans les
plutôt que des notes.
Dans les petites classes plutôt que des notes. Et il y a même, je crois, mon fils est bien heureusement pour lui passé au travers, mais dans les dictées, dans le primaire, on dit qu'il faut valoriser les réussites et non plus sanctionner les fautes. C'est-à-dire que vous pouvez faire, je sais pas, moi, 50 ou 70 fautes, mais il va falloir se réjouir de n'avoir pas fait, de ne pas en avoir fait 15.
Et vous avez entendu à l'instant, je vous ai écouté la réaction de cette représentante syndicale qui disait que désormais il y aurait une école des pauvres et une école des riches, qu'au fond, à ses yeux, l'école des riches, c'était le privé. Et pourtant, vos témoignages montrent que souvent, même avec des revenus modestes, le privé vous paraît un meilleur choix pour vos enfants. C'est votre cas, Laetitia, bonjour.
Bonjour Apolline, bonjour toute l'équipe.
Bonjour Laetitia, vous habitez en Gironde, je crois que vous êtes au chômage et pourtant vous avez choisi de mettre votre fils dans le privé. Pourquoi?
Alors, il y a eu deux propositions qui se sont faites. En fait, mon fils a une atypie, hein. Je parle pas d'handicap, je parle d'atypie.
Ouais.
Mon fils, il est HPI, HPE avec des troubles de la sphère autistique.
D'accord.
Donc depuis le primaire, suite à mon divorce, en fait, il est allé, je suis revenue vivre dans ma ville où j'ai vécu. Mmh. Et du coup, je l'ai mis dans mon école publique, là où je suis allée.
Mmh.
Ouais. Et suite à des réunions, ils m'ont dit ça serait bien de mettre Mathis dans une petite structure. Donc, la meilleure solution, c'est le privé.
C'est les gens du public qui vous ont dit mettez votre fils dans le privé.
Oui, exactement. Et en fait, donc j'ai trouvé un collège privé et ça s'est très 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 bien passé. J'ai trouvé que comparé, mon fils est né en 2009, donc comparé à des enfants de la même génération que lui, en fait au niveau de l'enseignement, j'ai vu la différence par rapport à ceux qui étaient dans le public.
Ça vous coûte combien, Laetitia ?
Actuellement, si j'enlève les aides qui me sont attribuées par rapport aux bourses, ça me coûte 172 euros actuellement au lycée par mois.
172 euros par mois, donc ouais. qui vous reste à payer après les aides. C'est-à-dire que vous bénéficiez, votre fils bénéficie d'une bourse, vous bénéficiez d'aide, et donc à la fin c'est 172 euros en comptant la cantine.
Oui.
C'est ça. Non, mais c'est, je veux dire, en comptant la cantine, ça vous coûte 172 euros par mois.
Ça fait ça.
Exactement. Oui. Donc, voilà. Ça, c'est quand même très intéressant aussi. Laetitia, quand vous entendez la secrétaire syndicale qui dit, ça veut dire qu'il y a une école des riches, une école des pauvres, est-ce que vous avez l'impression, vous, d'avoir mis votre fils dans l'école des riches?
Non, mais par contre, je vais pas être forcément contre ce qu'elle dit, mais c'est vrai que comparé à des je vais pas dire des collègues, mais des camarades de mon fils que je connais qui sont dans le public, moi je vois la différence au niveau du système éducatif, c'est-à-dire de l'enseignement, je parle. Hein. Je parle de l'enseignement. Déjà, là où mon fils est dans le lycée, il est dans le lycée du matin à Bordeaux. Donc je vais faire la pub, c'est pour le lycée du Mirail, voilà. Ouais. J'en profite parce que c'est un super lycée et j'aimerais qu'on étudie franchement ce système de mode éducatif parce que franchement.
Avec cette liberté, au fond, Laetitia, je voudrais justement pouvoir poser la question à Harold Cobert. Ça veut dire que c'est cette liberté. Cette souplesse, au fond, c'est ce que vante Laetitia, c'est cette souplesse que vous vantez aussi, que vous avez découvert en devenant professeur dans le privé.
Exactement, c'est ce que j'ai découvert. Après, moi, je suis issu du système privé catholique. J'ai passé 12 ans chez les pères jésuites et ils m'ont effectivement tout appris. Et je me rappelle que dans un cycle de formation que j'avais suivi, il y avait une conférence donnée par un prêtre où je suis allé à reculons parce que je connais leur casuistique et que je suis très... presque blasé de toutes ces choses-là. Et à un moment, il a dit cette phrase que j'ai trouvée vraiment formidable. Il a dit, nous ici, dans le privé catholique sous contrat, on n'aime pas la bienveillance. Et moi, la bienveillance est un mot que je vomis par tous les pores de ma peau parce que c'est devenu le synonyme de tout un tas de violences qui masquent tout un tas de choses. Et il a dit, nous, on préfère la bienfaisance. C'est-à-dire, pour lui, la bienveillance, c'est le bien qu'on veut faire. La bienfaisance, c'est le bien qu'on fait. La bienveillance, elle est velléitaire. La bienfaisance, elle est volontaire, elle est active.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une forme d'exigence ?
C'est une forme d'exigence et surtout de considérer l'élève presque dans une dimension spirituelle, sans forcément monter jusqu'à Dieu. C'est-à-dire, ils ne veulent pas créer uniquement des consommateurs, ils veulent créer des citoyens.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je recommande la lecture de votre livre, Harold Cobert, parce que vous êtes non seulement professeur de lettres, mais aussi écrivain. Et de cette expérience, vous avez écrit « Foi de prof ». C'est aux éditions du Rocher. Merci à vous. Merci à Laetitia. Vous n'hésitez pas. Vous nous appelez au 3216. Dites-nous, défendez tiens l'école publique si vous y êtes professeur, si vous êtes parent. Pourquoi avez-vous fait le choix du public ou du privé ? On en débat et on attend vos témoignages au 3216. 7h20, un autre écrivain est entré dans ce studio, Arthur Chevalier. Historien du matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Ce matin, vous revenez sur le célèbre personnage de D'Artagnan.
Et oui, un des mousquetaires du roman d'Alexandre Dumas, mais figurez-vous qu'il a bel et bien existé et un de ses descendants fait parler de lui en Gascogne.
Vous nous le dites dans un instant. Arnaud Demange va venir aussi pirater le face-à-face. Mon invité, c'est la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC. Il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de remonter le temps, il est 7h21 avec vous, Arthur Chevalier. Alors Arthur, vous nous allez nous présenter l'un des descendants de D'Artagnan. Dans les Landes, ce maire de 83 ans a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections municipales, mais après 50 ans à la mairie tout de même.
Oui, la première fois qu'il a été élu, c'était en 1976, et à l'époque, il succédait déjà à son père. Hein. Mais ce maire avait déjà fait parler de lui pour toute autre chose, puisque cet homme a une particularité. il serait le dernier descendant de D'Artagnan.
D'Artagnan, le personnage des Trois Mousquetaires.
Exactement. D'Artagnan, c'est d'abord le héros d'un roman, hein, Les Trois Mousquetaires, donc un roman d'Alexandre Dumas qui a été publié au XIXe siècle, d'abord en feuilleton, dans la presse, puis en livre. Et ça a été un succès immédiat. La France se passionne tout de suite pour cette aventure de cap et d'épée. L'histoire, vous la connaissez, Apolline. Rappel, D'Artagnan et ses trois copains, Athos, Porthos et Aramis, sont donc des mousquetaires. Leur métier, c'est protéger le roi Louis XIII contre les complots fomentés par le cardinal de Richelieu et ses sbires.
D'ailleurs, c'était quoi en fait un mousquetaire ?
Alors, tout simplement, un mousquetaire, c'est un soldat qui formait la garde très rapprochée du roi. Aujourd'hui, l'équivalent, ça serait un peu la garde républicaine, si vous voulez. À l'origine, on les appelait mousquetaires parce qu'ils maniaient un mousquet. Un mousquet, c'était les premiers fusils. Hein. C'était des trucs énormes. On ne pouvait tirer qu'un seul coup, il fallait ensuite les recharger. Mais je vous rassure, comme D'Artagnan, les mousquetaires savaient aussi très bien manier l'épée. Globalement, c'était une troupe d'élite qui savait un peu tout faire.
Donc il a un descendant. Donc j'imagine que D'Artagnan a donc vraiment existé.
Mais oui, il a vraiment existé. Alors son nom complet d'origine, hein, c'était Charles Augier de Batz de Castelmaure. Hein. C'est un peu long. Comme le héros d'Alexandre Dumas, il est originaire du Sud-Ouest, c'est un Gascon. Et dans la vraie vie, D'Artagnan était effectivement mousquetaire, mais pas du roi Louis XIII, de son fils, le roi Louis XIV, le roi Soleil. Et c'était un des meilleurs soldats de sa génération, ainsi bien qu'il va devenir un homme de confiance du roi. On lui donnait les missions les plus secrètes, les plus périlleuses. Et d'ailleurs, il va mourir en héros pendant le siège d'une ville hollandaise, Maastricht, en 1673, justement mourir d'une balle de mousquet dans la gorge.
Comment D'Artagnan est devenu une figure vraiment de la culture populaire ?
Alors on l'a dit, le livre a été un énorme succès. Hein. D'ailleurs, Dumas va écrire plusieurs suites, deux suites. Mais c'est surtout le cinéma qui va populariser les mousquetaires à travers le monde entier. On compte plus de 150 adaptations audiovisuelles des Trois Mousquetaires sur grand ou petit écran. La première, c'était en 1903. C'était un film muet. Depuis, les plus grands acteurs ont joué D'Artagnan, Jean Marais, Jean-Paul Belmondo ou encore Philippe Noiret. Le dernier à avoir tenu ce rôle, c'est François Civil, c'était en 2023. Bref, D'Artagnan, c'est plus qu'un personnage, c'est un modèle de notre culture. Il incarne le panache, le courage, l'amitié, le caractère, et tout ça au service de la France.
Vive D'Artagnan! Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Pour écouter les chroniques d'Arthur, vous n'hésitez pas, direction le podcast sur l'appli RMC. Il est l'heure d'accueillir Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
7h24, salut Arnaud. Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon.
Oui, je l'ai croisée dans les couloirs. Elle a pas l'air bien. Hein.
Ah.
Ah ouais non, elle était. Ah ouais, je suis saoulé quoi. Moi je voulais dormir ce matin et non quoi. Maud elle est porte-parole donc faut faire le SAV des déclarations de Macron quoi. Mais ça saoule. Moi je suis pas ton porte-parole gros. Je suis au gouvernement. Je veux dire, je suis pas ta boniche quoi. Parce que moi personne comme me demande comment je vais quoi. Comme personne me dit comment ça va. Nanani nanana. Que dalle quoi. Je me suis dit putain elle a été rapatriée de Dubaï elle en fait. Ça se sent quoi. Maud Bréjon débriefera l'allocution d'Emmanuel Macron d'hier. Je suis sûr qu'elle a plu à Arthur Chevalier. Cette allocution parce qu'il y avait
excellente.
Un petit soldat napoléonien sur son bureau, un grognard avec un petit mousquet, c'était adorable. On l'imagine bien faire avancer les petits bidules, jouer avec les chars et tout sur une grande carte. Nous on a des grognards, eux ils ont des drones en face, mais bon esthétiquement on y gagne. Et il avait mis des dossiers partout. Il y avait le dossier rouge, le dossier bleu, très très important le dossier bleu. On dirait nous quand on essaye de faire croire à notre patron qu'on bosse, on se met dans un bureau, on étale des feuilles dans tous les sens. Mathieu, il sait faire.
Voilà.
On prend l'air hyper concentré et en fait, on fait un solitaire, l'air de rien. Donc, Emmanuel Macron a parlé hier soir à la France et c'était Churchill. Je vous promets du sang, de la sueur et des larmes. Mais assez parlé de l'économie française. Parlons de la guerre. J'annonce le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. Donc, à plus de 2000 kilomètres des combats. Et puis, des chars Leclerc seront envoyés en Macédoine. En Macédoine, on n'a plus d'essence. Voilà. Parce que oui, combien ça va coûter tout ça? Eh bien, pour le savoir, branchons-nous sur BFM Business avec Edwige Chevrillon et Emmanuel Lechy.
Banquier, banquière, bonjour. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour, Momone.
Oh, grand fou. Mon canon de Navarone.
Oh, ma grosse Bertha.
Oh, mon char d'assaut. Envahis-moi.
Oh, je vais te faire péter la ligne Maginot.
Non
bon, bien. Non, mais là, on discute, mais il y a des gens qui nous regardent.
Voilà.
Enfin, j'espère. Enfin, vu les audiences, on peut se permettre un peu de fantaisie. C'est BFM Business. Emmanuel Macron a donc annoncé le déploiement de la frégate française, le Languedoc, au large de Chypre, pour protéger l'île. Alors, combien de millions ça va... Oh mon Dieu! Les Iraniens ont confondu l'île Chypre et le Chypre. Tu vas bien, mon héros?
Ah, on l'a pas vu. J'ai reçu un missile dans le ventre, mais Dieu merci, il a rebondi. Ça a fait toing et maintenant il vole en direction d'Europe 1.
Oh, bah tout va bien. Alors.
Allez, rendez-vous avec Maud Bréjon à 8h30. À tout à l'heure.
Merci Arnaud Demanche. Il est 7h27. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal sur RMC. À tout de suite. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Les civils pris au cœur de la guerre au Moyen-Orient. Des dizaines de milliers de Libanais fuient vers le nord. RMC était à leur côté alors qu'un premier avion de rapatriement a atterri en France cette nuit. Les Iraniens revendiquent le contrôle total du détroit d'Ormuz, ce carrefour mondial du pétrole. À la clé, de premières hausses des prix à la pompe. Et puis Tariq Ramadan, jugé pour viol et qui espère le renvoi de son procès pour raisons médicales.
L'exode des civils a commencé au Liban.
Où l'armée israélienne continue de bombarder le sud du pays. Son objectif affiché, créer une zone tampon pour empêcher le Hezbollah de frapper Israël. Elle a encore ciblé les abords de Beyrouth. Cette nuit, le bilan au Liban est monté à 11 morts. Conséquence, plus de 58 000 déplacés remontent vers le nord. Reportage de l'envoyé spécial de RMC à Beyrouth, Marion Gauthier.
Voilà, on dort là avec les enfants aussi.
Le sol de la chambre est recouvert de matelas. Mariam a les yeux clairs, du courage dans le regard.
On est 8 à peu près dans la chambre. Dieu merci qu'on a un foyer.
Elle souffle, ce n'est pas la première fois qu'elle doit quitter sa ville, tout laisser derrière sous les bombes.
C'est un peu difficile parce qu'on quitte déjà à chaque fois nos maisons. Mon fils, quand il est sorti, il a oublié ses affaires. Qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Il a pris son cartable. Il m'a dit, maman, peut-être ça me fait penser à quelque chose de la maison.
Un reste de normalité.
Et après, c'est la question. Et après, ça se finit quand? On attend la paix. Mais on ne fait pas la paix comme ça.
Eux ont trouvé refuge chez des proches. D'autres ont fui. C'est tout. Des pyjamas, quelques habits de rechange jetés dans le coffre avant de partir. Fouad dort dans sa voiture avec son fils sur un parking de Beyrouth. Il parle de la souffrance qui l'écrase.
Il y a beaucoup de peur. Je ne sais pas jusqu'où l'ennemi arrivera. Il se peut qu'il vienne dans ma maison, dans mon village ou le village d'à côté. L'armée israélienne peut s'installer n'importe où. J'ai l'impression que cette guerre est plus dangereuse que la dernière.
La crainte d'une incursion durable des troupes israéliennes dans le sud sur des terres déjà ravagées par la guerre.
Une éventuelle opération au sol qu'Emmanuel Macron a qualifiée d'escalade dangereuse et d'erreur stratégique. Dans son discours d'hier soir, le chef de l'État a annoncé deux premiers vols de rapatriement pour nos ressortissants français. Le premier est arrivé à Roissy cette nuit. On apprend à l'instant que l'Iran annonce tenir des funérailles nationales pour l'ayatollah Ali Khamenei ce soir. Sur le terrain, Téhéran a dit ce matin avoir tiré 40 missiles sur des cibles américaines et israéliennes. Israël qui a lancé une nouvelle offensive aérienne massive sur l'Iran cette nuit. Les États-Unis disent y avoir frappé 2000 cibles ces derniers jours.
Mais alors, comment le déclenchement de cette guerre a été décidé au plus haut niveau américain? On ne semble pas tout à fait d'accord.
Le chef de la diplomatie américaine laissait entendre que Washington avait été entraîné par Israël. C'est tout l'inverse, selon Donald Trump. Écoutez.
Nous les avons frappés parce qu'au vu des négociations avec le régime iranien, j'étais persuadé qu'ils allaient attaquer les premiers. Et il était hors de question que cela se produise. Alors j'ai peut-être un peu forcé la main d'Israël pour qu'on les attaque, mais ils étaient prêts et nous aussi. Nous avons été très forts car pratiquement tout ce qu'ils avaient a été détruit. Ils n'ont plus de marine, ils n'ont plus d'armée de l'air, ils n'ont plus de système de détection aérienne. Tout a été détruit.
Le président américain qui, par ailleurs, s'est dit prêt à escorter les cargos qui voudraient emprunter le détroit d'Ormuz. Ce matin, les gardiens de la révolution iranienne disent en avoir le contrôle total. Cette zone, elle est cruciale pour l'approvisionnement mondial en pétrole. Le cours s'est envolé, plus haut niveau depuis un an et demi. Et en bout de chaîne, les prix à la pompe flambent. Vous nous alertiez, vous, sur RMC, dès hier, Pierre Bourgès a pu le vérifier.
Depuis la semaine dernière, les automobilistes ont bien constaté l'augmentation des prix dans cette station-service près de Bordeaux.
Le carburant, en une semaine, a pris 8 centimes de plus à la pompe.
Et moi, je prends le sans-plomb 95 et je suis à 1,68 quand on était en dessous des 1,55 la semaine dernière.
Fabien, lui, anticipe, si la hausse se prolonge, il a déjà prévu de laisser sa voiture au garage.
La logique, ça va être soit pour aller travailler, on devra prendre les transports ou trottinettes.
Mais comment expliquer une hausse des prix aussi rapide à la pompe? Selon certains experts, dernière, les compagnies pétrolières répercutent déjà la flambée du cours du baril de pétrole sur leur stock actuel. Philippe Février est gérant d'une petite station-service près de Rennes.
Je leur vendais 1,81€ vendredi matin. À ma livraison de ce matin, eh bien, on arrive à 1,95€, donc une différence de 14 centimes. J'ai très très rarement vu une augmentation aussi importante.
Cette répercussion anticipée des prix de la part des compagnies pétrolières est pointée du doigt à Bercy. Le ministère de l'économie assure en revanche qu'il n'y a aucun risque concernant l'approvisionnement à court terme et invite les automobilistes à ne pas se ruer sur les stations-service.
Le reportage de Pierre Bourgès pour RMC. Cette question... À présent, le procès de Tariq Ramadan, jugé pour viol, va-t-il être repoussé? La Cour va devoir rendre sa décision aujourd'hui parce que l'islamologue ne s'est pas rendu à l'audience lundi. Ses avocats évoquent un grave problème de santé. Des experts vont le vérifier, mais déjà l'accusation s'insurge, Pierre Bazin.
Oui, c'est une décision particulièrement attendue, notamment par les plaignantes, certaines patientes depuis plus de 15 ans en vue de ce procès. Maître Kaminski et sa cliente espèrent que le renvoi ne sera pas ordonné.
L'expert avait dit que son état de santé était parfaitement compatible à la participation de Tariq Ramadan à son procès. On peut s'étonner que tout d'un coup, M. Tariq Ramadan ait des soucis de santé.
Deux médecins ont été mandatés pour évaluer l'état de santé de Tariq Ramadan, hospitalisé à Genève. Selon Maître Vogelut, son avocate, l'islamologue n'est pas en mesure de comparaître.
Il souffre de sclérose en plaques. On n'envisage pas autre chose qu'une confirmation par les deux experts qui ont été désignés du fait que M. Ramadan est parfaitement inapte à être jugé. On ne voit pas d'autre issue qu'un renvoi parce que vu son état de santé, on ne voit pas comment M. Ramadan pourrait être considéré comme apte à comparaître. Ça me paraît totalement improbable.
Si la Cour décide de ne pas renvoyer le procès, Tariq Ramadan pourrait tout de même être jugé en son absence.
Pierre Bazin du service police-justice de RMC. Et puis un mot de football pour vous dire que Strasbourg s'est qualifié en demi-finale de la Coupe de France. Victoire 2-1 contre le pensionnaire de Ligue de Reims. Ce soir, Lorient accueille Nice à 20h30 et Marseille reçoit Toulouse. Ce sera à 21h.
Et puis le quintet.
Le quintet qui se déroule à Amiens, 13h55. Les pronostics de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le numéro 16, Gilord Viva. Et l'outsider, c'est le numéro 9, Iris Fromm.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Face à cette situation instable, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégate, fassent route vers la Méditerranée.
Emmanuel Macron, hier soir, a annoncé l'engagement de la France dans le conflit au Moyen-Orient. Bonjour, colonel Père de Jong.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de l'Institut Trémis et vous-même, colonel, le président de la République, qui annonce donc le déploiement de systèmes anti-aériens français à Chypre, qui annonce aussi la mise en route du Charles de Gaulle en direction de la région, qui annonce aussi des frégates, l'action de nos rafales. Dans un instant, vous nous expliquerez ce que ça change et si vraiment on peut parler d'une action défensive. Il est 7h38, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42. Dans un instant, on se posera la question de savoir si la France est en train de rentrer en guerre. Alors, une guerre défensive, certes, mais avec quel type de moyens et quel type d'actions? Mais d'abord, vous êtes nombreux à réagir à cette information. Il y aura bientôt autant d'élèves dans le privé que dans le public. Est-ce que le privé a gagné le match, en tout cas à Paris? Bonjour Charles.
Charles,
bonjour. Vous êtes professeur d'EPS en Indre-et-Loire et je crois que vous êtes professeur aujourd'hui dans le privé. Comment vous expliquez-vous qu'il y ait de plus en plus de parents qui veuillent mettre leurs enfants dans le privé? Qu'est-ce que vous voyez-vous de l'intérieur?
Alors, bonjour à tous, merci de me donner la parole. Tout d'abord, j'aimerais juste rappeler, il n'y a pas de différence qualitative entre les enseignants du public et du privé. On passe le même concours, les épreuves ont lieu en même temps. Ce sont les mêmes épreuves, donc honnêtement, il y a des très bons professeurs partout, aussi bien dans le privé que dans le public.
Ça, c'est dit, c'est vrai, c'est très important.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à mon sens, qui est important, en tout cas moi, ce que je constate au regard des familles qui viennent dans l'enseignement privé, c'est le fait que les jeunes ont cours, et ils ont cours tout le temps, toute l'année. Je vais vous donner un exemple. Je pars en compétition scolaire la semaine prochaine,
ouais.
Pendant 3 jours. eh ben les élèves qui n'ont pas cours de PS lors de l'emploi du temps classique, ils ont un autre cours à la place. Ils n'ont pas d'heure d'études. Voilà, ils sont en cours.
Ce que et vous ça, voulez dire, ce que vous voulez dire, c'est voilà, c'est quoi? C'est la souplesse. Qu'est-ce qui explique que est-ce que c'est une question? Est-ce que les profs sont davantage absents dans le public que dans le privé, alors que comme vous le dites, c'est les mêmes profs au fond, hein, au départ en tout cas. Ou est-ce que c'est juste une question d'organisation, de structure?
C'était une question d'organisation, de structure, de souplesse. Notre responsable pédagogique, toutes les semaines, met à jour les emplois du temps en fonction des absences. Mmh. Et les jeunes ont cours. Je vais vous donner un deuxième exemple aussi également, qui, à mon sens, peut-être fait une petite différence. Voilà, je prêche pour ma paroisse, mais il y a 2 ans, la réforme des pactes, qui était un dispositif pour, je dirais, travailler plus pour gagner plus, ouais, pour mettre en place certaines choses, notamment par exemple comme l'aide aux devoirs. Mmh. Et ben, dans l'enseignement privé, ces pactes ont été beaucoup plus pourvus que dans l'enseignement public. Pourquoi? C'est certainement multifactoriel. Je pense aussi que, je dirais, le poids des syndicats dans l'enseignement public a poussé en faveur de moins pourvoir
de ce refus. Pactes. Refuser de jouer le jeu de ces pactes en quelque sorte. Vous avez peut-être entendu d'ailleurs Charles tout à l'heure cette responsable syndicale qui disait au fond il y a l'école des riches et l'école des pauvres. Sur ce point-là, vous, est-ce que vous le constatez?
C'est faux. Je vais vous donner mon exemple. Nous sommes un établissement privé qui est localisé géographiquement dans un quartier un petit peu défavorisé, et donc nous avons, je dirais, des catégories socioprofessionnelles de personnes qui sont très variées, avec des gens qui ont des revenus très modestes. Et sachez que dans l'enseignement privé, la majorité du temps, la scolarité est adaptée aux revenus des familles, et nous avons des familles qui payent très peu de scolarité pour venir au sein de
l'établissement. Il y a une forme de solidarité des familles, les familles les plus aisées payant davantage effectivement les frais scolarités que les familles les moins aisées. Merci beaucoup pour votre témoignage très utile, Charles. Charles, professeur d'EPS, donc dans une école privée. Il est 7h45. Le porte-avions Charles de Gaulle est donc dérouté de sa mission dans le nord de l'Europe pour rejoindre la Méditerranée. Des frégates sont également en place pour défendre notamment Chypre. Bonjour, colonel Père de Jong. Vous êtes le cofondateur de l'Institut Trémis. Vous analysez en particulier ces questions de défense. Les annonces du président de la République hier, ça change quoi d'abord concrètement? Quelle est au fond véritablement la position de la France? Est-ce qu'on est entraîné, peut-être malgré nous ou pas, dans la guerre?
Je pense que le président n'a pas le choix. On voit bien qu'aujourd'hui la France avait besoin, était inaudible, avait besoin de manifester encore une fois ça, de plusieurs choses. D'abord, sa présence. 2, le fait qu'on respecte nos accords. On a comme des accords extrêmement importants avec les pays du Moyen-Orient. On leur vend beaucoup de matériel au passage. Donc c'est le moment ou jamais d'être présent. Et c'est vrai que le fait d'avoir le Charles de Gaulle, puisqu'on va le mettre en place en Méditerranée avec son groupe aéronaval, donc c'est intéressant parce que ça manifeste encore une fois le fait d'être capable de gesticuler. C'est que les marins gesticulent. On va démontrer la force, et le fait d'avoir un porte-avions, démontre son utilité. Et ça, c'est un point extrêmement important. Si on n'avait que 3-4 frégates, ça ne suffirait pas. Donc la manifestation de la présence de la France en Méditerranée se fera avec un engin incroyable qui se verra. Donc, vous voyez, donc
manifestation de la force.
Oui, c'est très déclaratoire. C'est toujours la partie initiale. Maintenant, sur un porte-avions, vous avez 60 avions et des capacités de tir extrêmement importantes. Donc c'est vrai que c'est de la force, mais capable d'être utilisée. Au profit de qui? Au profit de nos alliés avec lesquels on a signé des accords au Moyen-Orient.
Nos alliés, ça veut dire qu'effectivement, ça fait parfois des années que ces accords sont, j'allais dire, dormants, non actifs, mais cette fois-ci, ils vont l'être. On a des accords avec les Émirats, la Jordanie, Chypre, le Qatar. Est-ce que ces alliés nous demandent de l'aide?
Alors pour l'instant, j'imagine que non. Cette année, je suis pas dans le secret des dieux. Mais dès lors que vous avez un exemple à Abu Dhabi, vous avez des rafales qui sont positionnées, ou des bateaux, des forces terrestres. En Jordanie, on a des avions. Donc très concrètement, je veux dire, quand la Jordanie reçoit des tirs de missiles ou des tirs de drones, ils vont demander évidemment de l'aide. D'autant que l'aviation, nos rafales sont capables de le faire sans aucun problème. Donc bien évidemment, ça fait partie d'un écosystème et on est dans cet écosystème.
On a bien compris que les actions se disaient, je cite, défensive. Il y a eu aussi cette insistance de la part d'Emmanuel Macron, d'abord sur la responsabilité première de l'Iran dans la situation, l'Iran qui n'avait pas respecté les accords sur le nucléaire, l'Iran qui a massacré, a-t-il dit, sa population, mais il a également fustigé le fait que les États-Unis et Israël aient agi en dehors du droit international. Une fois qu'il a posé ça, il dit nous serons en défensif. Est-ce que ça n'est que de la rhétorique ou est-ce que ça change vraiment les choses?
Alors, le défensif, c'est le mot qui sauve le dispositif. Mais on voit bien qu'au début, on est toujours en défensive. Après, on verra bien. Vous avez bien vu hier après-midi, le président, pas le président, M. Barrot a dit très clairement qu'on était capable de tirer à la source. À la source, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va tirer sur des batteries de missiles qui sont
avant
en Iran.
Avant qu'ils ne tirent eux-mêmes. Alors, c'est ça la question.
Il l'a pas dit. La source, ça veut dire que c'est le point de départ. Donc est-ce qu'on tire quand le missile tire qui quitte l'Iran, donc à un mètre du sol? On n'en sait rien. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on se donne.
En fait, le défensif, il joue sur le 1 mètre du sol. C'est-à-dire, ce que je trouve très intéressant quand vous dites ça, c'est qu'au fond, si on tire avant que le missile ne parte, ça veut dire qu'on est en offensif.
Absolument.
Si le missile, même s'il n'a été tiré que depuis une microseconde, on est officiellement en défensif, oui, donc on a la morale pour nous.
Parce qu'on ne tirera pas sur le territoire. Maintenant, ceci étant dit, ça va éclater en plein vol. Ça ne fonctionnera pas, bien évidemment. C'est du déclaratoire, c'est de la rhétorique politique, sachant qu'encore une fois, que la France n'entre pas en guerre. C'est ça le fond du discours du président Macron. C'est pour ça que ce discours était extrêmement intéressant, et je vous rappelle qu'il faisait 8 minutes, très précis, très concret, et très, très, très efficace, vous voyez ce que je veux dire. Il n'était pas de fioriture. Et ça donne beaucoup de consistance, si vous voulez, à sa décision.
Avons-nous les moyens de tenir et de défendre nos alliés?
Ben oui, bien sûr, la France, il n'y a pas de raison. On n'est pas, comment dire, on a tout ce qu'il faut. Bien évidemment, un porte-avions, c'est une force considérable. Autour du porte-avions, vous avez une force aéronavale. On met en plus une frégate autour de Chypre. On va renforcer tous nos éléments, surtout à Djibouti et en Jordanie. On va mettre en place des radars volants dans des AWACS. Donc, si on met en place un dispositif, le problème, c'est d'intégrer ce dispositif au sein des forces américaines. Parce que ça se bouscule. La Méditerranée, il va y avoir des rails montants, des rails descendants.
Il y a évidemment ce qui se passe là-bas et puis il y a les conséquences malgré tout ici. Emmanuel Macron a parlé d'un renforcement des cibles potentielles, d'une opération Sentinelle renforcée. Est-ce qu'il faut craindre les conséquences de la guerre ici sur le sol français? L'Iran a déjà fait preuve par le passé d'actions terroristes. Est-ce que ça fait partie au fond du spectre désormais de la guerre?
Oui, j'ai une pensée émue d'ailleurs pour nos soldats, les 58 soldats qui sont morts exactement en 83 au Liban. C'était un acte terroriste qui venait de Téhéran, il ne faut jamais l'oublier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le président, en renforçant le dispositif Sentinelle, et j'imagine au ministère de l'Intérieur, ils sont un petit peu sur les dents, ça fait partie de la guerre asymétrique et Téhéran utilise régulièrement cette arme-là. Donc c'est une arme comme une autre, et bien évidemment la France doit prendre en compte cette menace.
Merci beaucoup, merci colonel Père de Jong d'avoir expliqué ce matin les mots donc du président et les conséquences très concrètes. Notez également qu'à 8h30, mon invité, ce sera la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Elle est d'ailleurs aussi en charge de l'énergie. La question des conséquences sur le front de l'énergie en termes de coût du pétrole, de coût de l'essence et d'inflation, ainsi que les conséquences sur le commerce mondial. Toutes ces questions, je les poserai à Maud Bréjon à 8h30. Il est 7h50 et la voix de droite vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Jérôme Lavrieux.
Bonjour.
Jérôme, ancien député européen UMP, chroniqueur chez Estelle. Même si des mesures existent, il y a toujours 16% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes chez les cadres. Et pour vous, la transparence des salaires, elle a raté sa cible?
Oui, parce que en fait, l'enfer administratif en France est toujours pavé de bonnes intentions et il serait temps de remettre l'église au milieu du village dans ce domaine comme dans d'autres.
Vous nous le dites dans un instant, la voix de droite, comme tous les mercredis. Il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite. Mais d'abord le bonus, Mathieu, ce matin on parle musique et jeux vidéo.
Avec le retour d'un jeu culte. Ce que vous entendez, c'est l'extrait d'une bande-annonce pour un Stage Tour jeux vidéo prévu pour l'automne prochain. Stage Tour n'est autre qu'un nouveau projet des créateurs de Guitar Hero et Rock Band. J'explique, pour les profanes. Dans les années 2000, on se prenait pour Jimi Hendrix sur nos canapés devant la télé avec des guitares en plastique branchées sur la console de jeu. 20 ans après, l'âge d'or des Guitar Hero et Rock Band, une nouvelle version vient donc d'être annoncée. Les Guns, vous avez entendu, les Foo Fighters, je vous passe quelques classiques de la franchise en attendant de connaître les chansons de 2026. Les créateurs promettent de moderniser la formule, création de groupe, compétition en ligne, on pourra jouer depuis une manette classique, mais toujours depuis une guitare, une batterie ou un micro en plastique. C'est donc prévu pour l'automne, mais attention, une phase test pourrait même être lancée dès l'été prochain.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Il est 7h53 et vous êtes bien sûr RMC, comme tous les mercredis, c'est la voix de droite. Avec vous, Jérôme Lavrieux, ce matin. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Jérôme, les femmes gagnent toujours moins que les hommes. C'est ce que révèle une étude de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. 16% de moins en moyenne. Les mesures de transparence des salaires, ça veut dire que ça n'a rien servi à rien?
Ça veut dire qu'on est toujours en retard, en fait, et qu'il n'y a pas d'effet concret. L'Union européenne met en demeure la France d'adopter et de transposer dans son droit une directive européenne qui devrait être faite le 7 juin. Mais cette directive, elle rate sa cible, selon moi. Puisqu'en fait, on va demander aux femmes, qui sont les victimes de cet écart salarial, de demander les salaires des hommes. Donc, c'est-à-dire aux victimes de demander la preuve qu'elles sont victimes. Alors qu'en fait, on devrait remettre l'église au milieu du village et ça devrait être aux entreprises de prouver à ces salariés femmes qu'elles sont payées à salaire égal, à travail égal, salaire égal par rapport aux hommes.
Ça veut dire que pour vous, au fond, les femmes en entreprise vont encore être sacrifiées sur l'autel de la politique ?
Oui, parce qu'en fait, en France, dans notre beau pays, qui a l'habitude de surtransposer les directives européennes, on est doublement à côté de la plaque. Le gouvernement, il avait jusqu'au 7 juin pour transposer cette directive. Faute de Parlement, qui est en vacances, puisqu'il y a des élections municipales, on se demande bien pourquoi, puisqu'il n'y a plus de cumul des mandats.
Donc, oui, donc il pourrait continuer
à travailler un petit peu, et puis qui, de toute façon, est paralysé, faute de majorité. Donc, le délai du 7 juin, on ne va pas le respecter, on le sait. On se dit, à l'automne, il y a le budget. Quand on a vu le psychodrame de l'année dernière, on n'est pas sorti des ronces, donc ça va continuer. Et puis après, miracle, il y a la présidentielle. C'est-à-dire qu'on va s'occuper peut-être de l'égalité salariale après la présidentielle. Et une fois qu'on va s'en occuper, que va faire la France ? Eh bien, elle va surtransposer. Rappelez-vous, hein, quand il y a une directive européenne, en Pologne, si la directive fait une page, la Pologne, la transposition fait deux pages. En France, une page, 44 pages.
On la transpose en 44 pages chez nous en moyenne.
C'est la moyenne. Donc vous vous rendez compte qu'on va, on n'y comprend rien, mais alors là, on va plus y comprendre
du
tout.
Qu'est-ce qu'on fait, du coup, pour lutter contre l'inégalité salariale ?
Peut-être qu'on pourrait appliquer la loi française. La loi française dit que, dans le domaine salarial, comme dans tous les domaines, la discrimination de genre... Les wokistes n'ont pas besoin de trembler quand je dis ça. C'est la discrimination entre hommes et femmes n'est pas possible. Donc à travail égal, salaire égal, il faut simplement demander aux entreprises de le respecter. Et si elles ne le font pas, il faut sanctionner.
Pour vous, c'est un sujet dont les politiques devraient s'emparer ?
Oui, notamment la droite. Elle a été à l'origine d'une loi qui s'appelle la loi Copé-Zimmermann. C'est la parité dans les conseils d'administration des grandes entreprises. L'Europe nous a copié, pour une fois que l'Europe s'inspire de la France, en termes de loi, il faut le souligner. Maintenant, cette obligation, elle est reprise au niveau européen. La parité salariale, voilà un thème qui parle aux Françaises. Et la droite, souvent en manque d'idées, autant qu'en manque de leaders, gagnerait sans doute à se saisir de ce sujet.
Merci beaucoup pour votre message passé ce matin auprès de la droite. Jérôme Lavrieux, la voix de droite sur RMC. Demain, ce sera la voix de gauche comme tous les jeudis. Il est 7h56, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Côté météo, soleil. Alors certes, parfois voilé, mais il y a quand même beaucoup de douceur et de lumière. Et puis le journal, ses nouvelles frappes ce matin à l'aube au Liban. Nous serons dès le début du journal en direct de Beyrouth. Il est 7h56, juste après le journal. Tiens, il y aura Emmanuel Le Chypre et l'économie, vous êtes déjà là ?
Oui, déjà cette guerre en Iran, elle a un coût pour notre pouvoir d'achat, je vous dis combien, à peu près.
À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.